Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La politique à l'honneur, le ravi à demeure sur Radio Grenouille, c'est tous les deuxièmes samedis du mois. Et la politique est à l'honneur, donc comme je le disais, sur Radio Grenouille avec le satirique régional, le ravi donc. Un deuxième invité pour cette émission, Renaud Muselier, premier adjoint de la ville de Marseille. Bonsoir Muselier.
Bonsoir.
Avec tout de suite Michel Guéraud, Jean-François Pouplein et Raffi Amal pour vous tirer en quelque sorte le portrait, pour vous dire deux ou trois choses sur la vie à Marseille et dans la région.
Bonsoir Renaud Muselier, vous faites plus jeune que vos 47 ans. Lorsqu'on est beau gosse, c'est un avantage pour séduire les lecteurs ou les lectrices. Mais c'est parfois aussi un handicap pour se défaire de l'étiquette de l'éternel numéro 2 qui vous colle parfois à la peau. Premier adjoint d'un Jean-Claude Gaudin, déterminé à rempiler l'an prochain, il vous faudra peut-être attendre 2014 pour postuler à sa succession comme maire de Marseille. Votre parcours professionnel et politique est marqué par des histoires de filiation. Dans le sillage de votre pharmacien de père, vous engagez des études de médecine. Vous dirigez aujourd'hui la clinique Saint-Martin. C'est à la fac, à 24 ans, que vous attrapez le virus de l'engagement politique en menant une fronde étudiante contre le gouvernement socialiste. Petit-fils de l'amiral Muselier, l'homme de la Croix de Lorraine, parrainé par Maurice Toga, vous prenez vite du galon au RPR. À 28 ans, vous êtes déjà membre du Conseil national du Parti gaulliste. À 34 ans, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône. En 1992, pour la première fois, vous menez campagne en votre nom. Vous êtes élu conseiller général. C'est le début d'une longue série de candidatures et de victoires qui feront de vous un conseiller régional et un député. Et le numéro 2 de Marseille. Cousin germain du roi Leka Ier d'Albanie, en 2002, Raffarin vous nomme secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Vous résumez alors avec brio votre action. Villepin fait tout et moi, je m'occupe du reste. Lors d'une virée en Haïti, peut-être entraîné par des années d'exercice au RPR, vous passez sans peine entre les balles au cours d'une fusillade. Les honneurs ne vous font pas défaut. Chirac vous sacre chevalier de la Légion d'honneur. Le roi du Maroc, grand officier, et le premier ministre cambodgien, commandeur de l'ordre du Saaka Maitreï, si je prononce bien. La liste n'est pas complète. Fils de Paca, vous connaissez aussi le parfum de la défaite. Tête de liste UMP-UDF en 2004, vous échouez à reprendre la région à Michel Vauzel. Vous présidez aujourd'hui le groupe des droites régionales. À Marseille, vous présidez Euromed, mais le calife ne semble pas pressé de laisser s'exprimer toutes les ambitions du grand vizir. Et vous serez candidat, en juin, pour conquérir un fauteuil de député. Cela se passera dans votre ancienne circonscription, et non ailleurs, comme vous le souhaitiez au départ. Jean-Claude Gaudin n'a pas voulu. Il dit former avec vous un tandem en béton. C'est parfois lourd, non, à porter le béton ?
Oui, mais ça permet de... Il vaut mieux le porter qu'essayer de nager avec, parce que souvent vous coulez dans ces cas-là. Je vous remercie pour ce portrait parce qu'il est plutôt sympathique et je m'attendais à bien pire. Bon. La réalité, c'est que fondamentalement, je crois dans l'action publique. Je suis très attentif à ce qui se passe autour de moi et j'ai compris que de toute façon, ce sont à un moment ou à un autre les politiques qui décidaient. Et donc, il fallait essayer à l'intérieur d'une famille politique de peser, d'être indépendant, d'être libre, de faire valoir ses choix, après d'essayer de prendre le pouvoir dans une institution pour essayer de faire évoluer une cité, une ville, un département ou une région. J'ai eu beaucoup de plaisir pendant ces années à faire ce que j'ai à faire. Je crois que vous n'avez pas assez souligné ce qui est ma motivation initiale et ma formation de base. Je suis médecin. Je suis médecin, j'ai un métier. J'aime ce métier. Et j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris dans ma profession médicale, j'essaye de l'appliquer dans mon engagement politique. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel et qui me donne beaucoup de distance par rapport aux choses. Parce que aujourd'hui, avec Jean-Claude, je m'entends très bien. Je me suis très bien entendu pendant toutes ces années. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et j'ai envie d'agir Et aujourd'hui, je peux agir. Je ne suis pas numéro un. Voilà, c'est pas grave.
Justement, la latitude...
Vaut mieux être ambitieux qu'arriviste.
Bien entendu, mais la latitude de votre liberté avec un Jean-Claude Gaudin qui se déférise de plus en plus, quelle est-elle réellement?
Ma latitude est quand même grande parce que souvent, on a besoin de voler de ses propres ailes. Vous avez souligné quelque chose qui est important, c'est que c'est vrai que je suis peut-être plus jeune et que j'ai quand même 47 ans et que j'ai 4 enfants. Et qu'au bout d'un moment, vous dites, bon ben, est-ce que je suis prêt à avoir des responsabilités plus importantes? Est-ce que j'en suis capable si les électeurs le choisissent ou le décident? Bon, la réalité, c'est que ben, il y a un maire, la place n'est pas libre et j'ai une marge de manœuvre importante puisque à l'intérieur du conseil municipal et à l'intérieur de la communauté urbaine, j'ai globalement entre les familles ex-RPR, ex-UDF, quoi, j'ai la moitié des élus, j'ai la moitié des adjoints. Et en tant que premier adjoint, j'ai la capacité de faire des choses importantes pour la cité. Dans la première municipalité, Gaudin-Muselier, puisqu'on a été élu deux fois sous ces étiquettes, j'avais en charge l'économie, l'emploi, Euro-Méditerranée. Très honnêtement, le bilan est plutôt positif. Il n'est pas parfait, tant s'en faut.
On y reviendra de toute manière.
Dans le deuxième mandat, j'ai décidé de prendre les transports et d'avoir une politique... pour essayer de faire en sorte que cette ville respire mieux. Alors, ça fait des travaux, mais au moins, je bouge.
Mais juste une phrase. 2014, c'est pas loin, quand même, 2014.
Bah, c'est vous qui fixez cette date. Hein. Moi, je peux voir d'autres choses. Hein. Voilà. Vous savez, le calendrier, il est modelable. La vie politique, ça va très vite. Vous savez, 2014, c'est pour moi une éternité. Hein.
Une phrase qui pourrait peut-être vous résumer. Vous me direz s'il y a une malédiction, en quelque sorte, Muselier. Vous disiez dans le livre que vous avez consacré à votre grand-père, je vous cite, « Muselier n'est pas entré dans l'histoire, Muselier en parlant de votre grand-père, Muselier n'est pas entré dans l'histoire par la grande porte. L'ombre immense de De Gaulle semble un obstacle trop difficile à franchir. Vous ne craignez pas que pour vous aussi, petit-fils, l'obstacle de cette ombre immense de Jean-Claude Gaudin soit difficile à franchir ?
D'abord, c'est deux périodes fondamentalement différentes. Mon grand-père était le seul officier supérieur, parce qu'il était amiral, qui a rejoint la France libre. Il était marseillais et lorrain, et c'est lui qui a donné la croix de Lorraine à la France libre. L'ensemble de ma famille a été déporté, torturé, tout le monde a été décoré, et ils ont vécu un combat pour la liberté qui engageait leur vie respective et celle de leur famille. Aujourd'hui, l'engagement politique, vous savez, je perds les élections, je retrouverai ma femme et mes enfants et je continuerai à avoir un métier de médecin. Je crois qu'on ne réalise pas à quel point les périodes ne sont pas les mêmes et le courage des hommes qui nous ont précédés, qui sont battus pour la liberté, ne sont pas les mêmes que ceux qui défendent aujourd'hui la démocratie dans notre pays.
Mais Monsieur Muselier, régulièrement, vous affirmez quand même vos prétentions. Vous les présentez, on vous a entendu à diverses occasions réclamer cette mairie, au moins un partage des pouvoirs avec Monsieur Gaudin à l'issue des prochaines municipales, avec la présidence éventuellement de MPM.
Allez, sans langue de bois, Renaud Muselier.
La vie politique passe par plusieurs choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire pour ma part. D'abord, il faut se sentir bien dans sa famille politique. Et très honnêtement, à l'intérieur de notre groupe, au sein du conseil municipal UMP, avec l'UDF qui est avec nous, très honnêtement, ça se passe plutôt bien. On a des relations agréables. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les familles politiques, honnêtement. Nous sommes dans la deuxième ville de France. Avec Jean-Claude, on a fait beaucoup de choses. On a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, quelques drames épouvantables. On l'a géré avec, je crois, beaucoup de dignité et de responsabilité. Alors après, quand vous êtes élu à la ville, quand vous êtes jeune parlementaire à 33 ans, que vous êtes premier adjoint au maire à 35 ans, et que vous avez cette soif de vie, de vivre, de changer les choses, vous lancez dans cette aventure, puis vous réalisez très vite la difficulté de l'exercice. Le poids de l'administration, le manque de moyens, les demandes permanentes partout, et vous essayez de trouver des mécanismes qui vous permettent d'avancer. Bon, mais quand vous avez 47 ans... Ça vous fait quand même déjà 12 ans de trucs. Trois fois, vous avez été réélu député. Deux fois, vous avez été réélu avec le maire. Vous avez été 3 ans ministre. J'ai donc appris un certain nombre de choses pour progresser. Et à un moment, cette compétence, elle n'est plus tout à fait la même qu'il y a 12 ans. Et donc, légitimement, je crois que je suis en mesure, mais c'est peut-être prétentieux de le dire, d'assumer un certain nombre de responsabilités supplémentaires. Alors, avec Jean-Claude, on discute. On ne se fâche pas. Et on essaie de trouver un équilibre. Après tout, ce qui marche à Lille ou à Strasbourg...
Vous discutez d'égal à égal ou...
Oui et non.
Est-ce que vous suggérez, puis lui dit, bon allez, je siffle la fin de la récré, c'est pas bon là?
Ben, des fois oui, des fois bien sûr c'est comme ça. Mais à partir du moment où vous acceptez d'être numéro 2, à partir du moment où vous acceptez qu'il soit le maire, mais à partir du moment où il accepte de prendre ses décisions, après en avoir discuté toujours avec vous, vous lui dites dans les yeux ce que vous en pensez, et puis on est dans le bureau tous les deux, les portes sont fermées, on discute, mais vous ne savez pas ce qui s'y passe. Sauf qu'à la sortie, on finit toujours par trouver un accord, et cet accord et à notre avis, le meilleur accord possible pour les Marseillais.
Alors il y a un scénario qui circule, qui, celui d'une réélection en 2008 de Jean-Claude Gaudin, et puis peut-être d'un départ vers des fonctions, des hautes fonctions au Sénat en cours de mandat. Et donc un fauteuil qui se libère, c'est un scénario réaliste ?
Ça dépend pas de moi, ça dépend du Sénat. Donc les scénarios que l'on peut envisager au niveau local dans le cadre d'un accord avec Jean-Claude, je peux vous en parler, parce que ça c'est nos discussions entre nous. Maintenant, il va vraisemblablement s'engager dans une démarche, puisqu'il l'a dit, de la présidence du Sénat. Je lui souhaite d'y accéder. Je crois que c'est un poste assez exceptionnel. Il a cette capacité de rassemblement, de tolérance et de respect.
Vous le souhaitez surtout parce que ça vous dégagerait le fauteuil. Honnêtement.
Alors après, forcément, s'il est président du Sénat, ça peut laisser des espaces libres. Bon, oui, donc dans ces espaces libres, s'il se libère, est-ce que au sein de la majorité municipale, il y aura un accord, un consensus, que ça fonctionnera? Vous savez, c'est tellement compliqué la vie politique. Pour autant, chose est sûre, c'est que je suis là, j'existe, je travaille, je ne lâche rien et j'essaye de construire pour ma ville, un certain nombre de choses. Alors, en faisant ce travail de construction, ben, vous êtes un pion indispensable du dispositif et je ne compte pas laisser ma place.
D'accord. Alors venons-en au bilan qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une actualité un petit peu douloureuse quand même pour cette équipe Gaudin-Muselier. C'est ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui fait une photographie quand même très très sévère de la situation financière de la ville et de MPM. Qu'est-ce qui se passe là? Quels sont l'état réel des finances de cette ville?
Bon, ben, de toute façon, tout le monde sait que la ville est pauvre, donc la ville reste pauvre.
C'est un peu facile, c'est quand même.
Après, on va rentrer peut-être peu plus dans le détail, mais dans ce rapport, première chose qui est très importante quand même pour nous, et je crois qu'il faut bien le rappeler à tous ceux qui nous écoutent. Rien n'est jamais contesté sur la loyauté des comptes et sur l'honnêteté de l'équipe. Je pense que c'est important. Dans ce rapport, contrairement à d'autres institutions, on ne nous a pas réclamé des billets d'avion, des billets d'hélicoptère ou des nuits d'hôtel ou des bouteilles de champagne.
Vous faites référence au conseil régional ?
Bon, je ne sais pas, vous faites référence à ce que vous voulez, mais comme vous suivez l'actualité et les différents rapports qui sortent, en tout cas, nous, on n'a pas ça. Et donc là, l'opposition, qui se régale en général d'un certain nombre de choses, là, elle reconnaît que nous sommes honnêtes, sincères. Et je crois que c'est la première chose qu'il faut souligner. Deuxièmement, on compare le budget d'endettement. On est à 1340 millions d'euros quand on a pris la ville en 1995. Aujourd'hui, en endettement, on est à 1400 millions d'euros d'endettement. C'est-à-dire à quelque chose près, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'entre-temps, on a investi 2235 millions d'euros sur l'ensemble de la ville. Que la ville qui perdait 2500 emplois pour préparant, elle en crée près de 5000 par an. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a près de 50 000 emplois. Et qu'on a considérablement investi dans cette ville.
Oui, quand vous parlez de chiffres d'investissement, c'est des chèques en blanc que vous avez fait ou c'est... Parce que textuellement, la Chambre régionale des comptes dit qu'elle met en doute la sincérité des comptes de la ville de Marseille. C'est quand même un soupçon qui est...
Non, elle ne met pas en compte. Là, vous avez une... Vous êtes sûr que vous avez pris le truc de la Chambre régionale des comptes? Parce que la Chambre régionale des comptes...
Il faut dire aussi que la municipalité a du mal à le distribuer puisque personne ne l'a encore.
Ben non, parce que normalement, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on discute d'un truc qui est secret. Et qui normalement ne devrait pas ressortir et qui devrait s'expliquer une fois que c'est sorti lors du conseil municipal. Mais je constate que nos adversaires politiques l'ont distillé avec beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur en oubliant ce qu'ils ont vécu eux à titre personnel dans leurs propres institutions. Les propos exacts de la Chambre régionale des comptes, c'est la procédure d'engagement comptable était fréquemment contournée et qu'elle était dans l'impossibilité de se prononcer sur la fiabilité des comptes de la région. Ça, c'était pour la région. Pour nous, les propos sont tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes estime que ce qui va d'ailleurs est l'encontre des recommandations de la Cour des comptes, que la ville pêche en quelque sorte par excès sur les investissements de la ville.
Oui, et elle va plus loin, elle précise qu'elle a des doutes sur votre capacité à réaliser tous les investissements programmés, toutes les promesses avancées.
Alors, la difficulté dans ce genre d'opération par rapport à la première question que vous avez posée, c'est-à-dire, vous avez un rapport sur la table. Est-ce que vous connaissez une seule entreprise, une seule institution, que quand elle est contrôlée par le fisc ou par une chambre, il n'y a pas un rapport derrière? Il y a toujours un rapport derrière. Nous, on est honnêtes. Nous, sur l'investissement, il n'y a pas débat. Sur l'endettement, il n'y a pas débat. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout excessif, comme on veut bien le dire. Par contre, là où il y a une vraie différence d'analyse, c'est au niveau du fonctionnement, au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire la totalité du personnel municipal mis à disposition de nos concitoyens dans le cadre de notre action municipale. Et là, on dit, vous avez trop d'employés municipaux.
Trop de voitures de fonction aussi, visiblement.
Trop d'heures supplémentaires.
Ça a été changé. Donc c'est vrai, il y avait des heures supplémentaires, notamment pour les chauffeurs. En ce qui concerne les voitures, très honnêtement, je l'ai découvert avec vous dans ce rapport. Et donc, on est en train de faire une enquête en interne pour voir ce qu'il
y a. Vous en avez combien, vous, Renaud Muselier ?
Moi, j'en ai une. Voilà, j'en ai une. J'ai surtout la mienne. Hein, titre personnel, quoi. Voilà. Donc moi, je suis un individu normal qui ne vit pas sur le compte de l'institution. Ce que je veux bien dire, c'est que au niveau des investissements, il n'y a pas de critique possible. Dans la mesure où on paye ce que l'on engage, et je vous ferai aimablement remarquer que tout ce que nous avons entrepris comme travaux ont été financés et aucune entreprise ne s'est arrêtée en cours de route. Ce qui veut bien dire qu'on a nos autorisations de programme, on a les budgets et on a les financements. Vous connaissez bien les entreprises, vous ne croyez pas qu'elles travaillent gratos et que vous la payez 3 ans après. Hein. Que ce soit pour le tramway, que ce soit pour la BMVR, que ce soit pour Euromed, que ce soit pour l'ensemble des investissements que nous faisons dans l'ensemble de la ville. Nous engageons des investissements dans des outils services publics pour le public marseillais, avec un effet démultiplicateur en investissement privé qui crée des emplois, qui améliore la vie. Et donc, ce sont des investissements. Le fonctionnement, c'est vrai que c'est très compliqué parce que nous avons beaucoup d'employés municipaux. On a réduit le nombre d'employés municipaux de 6%. La Chambre régionale des comptes nous dit « vous en avez trop ». Les Marseillais nous en demandent plus, que ce soit pour la propreté, que ce soit pour la RTM, que ce soit pour les crèches.
3500, soit... non
De quoi?
Employés municipaux, non?
En plus ou en moins?
Non, au total.
Non, 13 500. Ouais. C'est autrement plus important. Et il y a une demande permanente des syndicats, il y a une demande permanente de la population, et il y a parallèlement à ça un contrôle qui vous dit « vous êtes trop nombreux ». Donc,
Il y a des compétences comme la propreté, c'est la communauté urbaine.
Oui, mais c'est le personnel de la ville qui a été transféré. Donc, je veux dire, là, vous retrouvez avec le même personnel sur des mêmes lignes. Donc,
justement, le chiffre de 3 700 était un chiffre vrai, mais ils ne considéraient pas les mêmes choses. C'est 3 500 personnels précaires.
Alors ça, c'est autre chose.
Oui, ils font partie des 13 000, ils sont précaires.
Ce sont les contrats à durée déterminée sur des missions spécifiques. Voilà. Et là, le Chambre régionale des comptes nous dit, sur ces 3 500 qui sont, par exemple, les emplois d'été, qui sont, par exemple, les emplois dans les centres sociaux, sur un moment bien particulier, à un moment ou de crise, ou de difficulté, ou de vacances, là, ce sont des emplois qui sont des emplois à durée déterminée, qu'on considère comme précaires, et dans lesquels, ils nous disent, ce sont des emplois, comment dire,
C'est des vacations.
Ce sont des vacations, oui, bien sûr, tout à fait. Bon, ben, ces emplois-là sont des emplois qui apportent un service.
25%, ça fait du chiffre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là, par exemple? Après ce rapport de la Chambre régionale des comptes, vous allez dire, c'est bon, on arrête, on les licencie, on les titularise. Qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça dépend lesquels et où. Un exemple simple, sur les... Quand les contrats à durée déterminée des jeunes, là, les emplois jeunes ont été faits par M. Jospin, nous, la ville de Marseille, on estimait que c'était intéressant sur le plan financier, puis c'était bien sur le plan politique d'aider des jeunes. Donc parce qu'il y avait la moitié qui était payée par l'État, la moitié pour nous, sauf que rien n'était prévu à la sortie, on en a engagé 700 quand même.
Mais ça, c'était une promesse électorale de Jean-Claude Gaudin.
Non, c'est une réalité économique et sociale qui fait en sorte que c'est pas une promesse électorale.
De les titulariser, si.
Mais ce n'est pas une promesse électorale, ce n'est pas pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui travaillent pour la ville et qui travaillent bien, qui arrivent en fin de contrat et qui se retrouvent sur le marché du travail, qui ont travaillé entre 3 et 5 ans pour la collectivité? Est-ce qu'on leur dit, monsieur, je suis désolé, l'État socialiste ne veut plus vous payer, on vous vire? Ben non, on ne sait pas faire ça. Voilà, très exactement, on ne sait pas faire. Donc les 700, on les a pris. Ceux-là, ils sont rentrés, on les a intégrés. Alors ceux-là, après, on va nous dire, dans la Chambre régionale des comptes, vous avez du personnel en trop. Qu'est-ce qu'on faisait sur le plan politique? Nous, on a estimé, et Jean-Claude Gaudin l'a dit, et nous l'avons fait, on n'a pas fait des emplois précaires, on les a fait rentrer à la ville. Après, ce sont des missions très spécifiques sur des moments bien particuliers. L'été, par exemple, ou les centres sociaux, où il y a des moments bien particuliers de Coulebourg, et bien là, il y a des emplois qui sont des emplois à durée déterminée.
Une fois les travaux du tramway et métro terminés, est-ce qu'il y aura encore de l'argent dans les caisses pour faire autre chose à Marseille?
Je crois qu'il faut trouver des modalités de financement complémentaires parce que la collectivité ne peut pas tout payer. Les demandes sont importantes. On voit bien qu'aujourd'hui, autant j'ai eu beaucoup de mal pour avancer avec mon tramway parce que tout le monde le voulait mais jamais chez lui et tout le monde l'acceptait mais ne supportait pas les travaux. On arrive au bout des travaux, sauf qu'aujourd'hui maintenant, on me demande de monter à Saint-Antoine. Maintenant, on me demande d'aller à Saint-Loup. Maintenant, je dois aller à Dromel. Il faut que j'aille et que je finisse ma troisième ligne pour aller au Catalan. Il faut trouver des moyens financiers là-dessus. Ces moyens financiers, j'ai l'intime conviction qu'il faut trouver un système de partenariat public-privé qui permette de garder le fonctionnement du service public avec une aide complémentaire du financement privé. C'est le meilleur moyen pour aller le plus vite possible. Je vois que quand il y a un effet levier de l'argent public, on a un retour en investissement argent privé qui est considérable. Sur Euroméditerranée, je vous donne un exemple simple, établissement public d'intérêt national, le seul qui existe en France, grosso modo, on a investi 300 millions d'euros, enfin 300 millions d'euros à peu près, on a récupéré 4 fois plus en argent privé, investissement sur place. Du foncier comme Euromed Center où il n'y avait plus rien là-bas, à côté de la Fiesta des Docks par exemple. On avait un foncier qui était estimé à 40 millions d'euros, on l'a vendu au privé 120 millions d'euros et ils vont nous faire près de 50 000 mètres carrés de bureaux pour y employer près de 2000 personnes.
Mais en même temps, monsieur, avec le... Désolier, excusez-moi de vous couper, c'est, oui. c'est une critique qui est souvent faite, enfin il y a même une double critique hein, sur ces partenariats public-privé, les délégations de services publics. C'était notamment le cas sur la gestion du tramway où un groupe, en tout cas un groupement d'entreprises, dont une privée qui est connexe pour... Veolia, voilà, pour ne pas la nommer, va récupérer juste le fonctionnement et n'investit pas du tout dans les travaux. Donc, va s'occuper de la gestion du tramway en laissant les travaux faits par la collectivité. Il y a aussi cette Veolia qu'on retrouve dans différentes autres délégations de la ville, comme pour les navettes du Frioul. Et il y a une critique qui ressort souvent, c'est de dire que la ville commence à être vendue au privé. Alors,
je suis très attentif à ça et je ne l'accepte pas. Hein. C'est-à-dire sur le principe. Donc ce n'est pas par rapport à vos propos, mais sur le principe, ce n'est pas du tout dans notre logique et nous ne l'acceptons pas, hein, que les choses soient bien claires. En ce qui concerne le tramway, c'est un outil pour les Marseillais, au profit des Marseillais. Donc c'est payé par les Marseillais, ça appartient aux Marseillais. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité le payer, nous. Bon. Après, dans le cadre du fonds, donc ça appartient quelque part à l'outil RTM.
Enfin, les dividendes n'auront pas allé aux Marseillais. Hein,
si.
Et non.
Si, puisque vous retrouvez, après, dans le fonctionnement du tramway. Donc l'investissement est très important. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre patrimoine. En étant maître de votre patrimoine et de votre outil, vous pouvez choisir qui vous voulez pour travailler chez vous. Ce qui n'est pas l'inverse quand vous n'en êtes pas propriétaire. Et donc ça, c'est un choix qui est très fort pour dire on ne vend pas au privé les bijoux de famille. Bon. Surtout quand ceux-là sont tout neufs et tout beaux. On a décidé, puisque je suis vice-président de la communauté urbaine en charge du transport, de proposer à la RTM un projet d'entreprise. Pour la première fois depuis la fabrication du métro, l'utilisation du métro, c'est-à-dire le métro, dites-moi, vous n'étiez pas né quand le métro était là. La réalité, c'est qu'on a décidé de faire un plan d'entreprise de développement de cette entreprise, comme dans les grandes métropoles. Et nous avons estimé que le meilleur moyen pour développer le dispositif, c'est il fallait bien sûr aller dans le 12e pour monter, désengorger tous ces quartiers. Et donc ça, c'est le métro. Et de réaménager l'espace public, comme ça s'est passé dans toutes les autres villes de France, de droite comme de gauche, où incontestablement, là où passe le tramway, la ville revit. Et la qualité de vie change. La ville est apaisée. Partout où le tramway est passé, dans toutes les villes de France.
Alors là aussi, il y a une critique.
Alors après, par rapport à Veolia, parce que je veux revenir là-dessus, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de malentendu avec nos téléspectateurs. C'est que dans le fonctionnement, on voit bien qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la RTM, on a une dérive importante sur le plan financier. Ça coûte une fortune, la RTM.
Et donc, d'ailleurs, un bruit court, comme quoi la communauté urbaine ne mettrait pour la prochaine subvention 110 millions alors qu'il y a une nécessité de 15-20 millions de plus.
Ben on a plus que ça hein, comme écart. Mais il y a un débat avec les autres maires parce que là on n'est pas seul à la communauté urbaine. On est avec 18 maires. Et les 18 maires, qu'ils soient de Saussé, de Marignane, de...
Enfin, Saussé, de... c'est pas celui qui vous est le plus défavorable.
Non, mais attendez, lui aussi, là, c'est finance. Lui, il doit rendre compte à ses électeurs. Nous, on a des maires communistes, on a des anciens Front National, on a des UMP. Le type, dans sa commune, il veut pas que Marseille engloutisse tout et que lui ne puisse plus rien faire. Vous faites aucun souci. Et ça, vos amis, là-dedans, dans ce genre d'histoire, vous faites pas de soucis. Ce sont souvent les pires. Hein. Donc, ils vous font aucun cadeau. Donc, il faut essayer de traiter au mieux ce service public pour le public marseillais avec sans dérive financière. Et nous avons estimé que, et d'ailleurs ça nous a été demandé par la Banque Européenne d'Investissement,
la BEI le directeur de la BEI, dans une interview très récente, a affirmé que ce n'était pas du tout une clause du prêt.
Ils ont dit quand même, on vous prête de l'argent, puisque vous nous le demandez, comme dans toutes les autres villes de France, qu'elles soient communistes, socialistes ou de droite. Vous êtes les premiers à nous le demander aussi tard d'ailleurs. On leur demande. Quand on leur demande, on dit bon, ok, on vous le donne, on aimerait bien savoir quand même qui c'est qui va gérer ça et comment. Alors, ce n'est pas la clause sine qua non en disant on ne vous prêtera pas si vous ne nous donnez pas la réponse. C'est quand même, dites-moi, on a bien entendu parler de la RTM. On connaît bien vos problèmes. On veut bien vous prêter. Enfin, quand même, dites-nous un peu comment vous allez faire. Et quand on fait la démarche, on se rend compte que la RTM dit, moi, je me marie volontiers avec quelqu'un, quand même, pour faire cette évolution de ce dossier. Et donc, c'est la RTM qui fait un groupement d'entreprises avec Veolia, où ils sont à 60-40, c'est-à-dire qu'on est majoritaire.
À part que l'appel d'offres est quand même assez rock'n'roll, Renaud Muselier, non ?
Pas sur le
candidat.
Pas sur le... non, c'est-à-dire que quand il y a eu l'appel d'offres, la RTM et Veolia sont proposés, Connex, dont vous parlez, sont proposés et sont retirés. C'est pas rock'n'roll, hein, c'est il y a un appel d'offres transparent qui n'est contesté par personne et vous ne vous faites aucun souci. S'il y a l'ombre d'une malhonnêteté potentielle ou d'une turpitude quelque part, ils nous attaquent. Or, nous, depuis qu'on est à la mairie, on n'a jamais été attaqué sur aucun de nos appels d'offres. On est là, justement, d'une transparence totale.
Toujours sur le tramway, vous êtes monsieur le monsieur transport de Marseille. Vous le dites vous-même, Marseille n'est pas riche. Et ce tramway, c'est un objet de requalification du centre-ville. Mais on a l'impression qu'il sert surtout à ça. Ça vous énerve quand on vous le rappelle, mais il passe au-dessus d'un métro pour l'essentiel.
Non, ça ne m'énerve pas parce que c'est une... J'ai fait une erreur politique. C'est que j'ai laissé faire croire qu'il y avait un doublement des deux lignes. Et ce n'est pas vrai. Les lignes de métro et les lignes de tramway ne sont pas superposées. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder le plan.
Ils ne sont pas superposés ?
Et bien sûr que non. Ils ne passent pas du tout au même endroit. Il y en a un qui part de la gare Saint-Charles sur le métro et qui plonge là. Le seul endroit où éventuellement ils sont superposés, c'est sur la rue de Rome qui n'est pas encore faite.
C'est le seul endroit. À l'échelle de la superficie de Marseille, on est quand même sur des secteurs qui se croisent.
Oui,
mais
vous faites des pôles multimodaux. Vous avez quatre endroits où vous avez métro, train, tramway, bus, où les gens, c'est des pôles multimodaux, ils se croisent, ils peuvent garer leur voiture, ils peuvent arriver en bus, ils peuvent prendre le métro, ils peuvent prendre le train. Il y a bien un endroit, il faut quand même les choses se croisent. Et là, très honnêtement, vous avez une délimitation. Je vous invite vraiment à regarder le plan. Et quand vous regardez le plan, vous verrez que sur les 11 km de tramway, il n'y a que 800 mètres de points communs avec le métro, parce qu'il y a des moments, forcément, il faut qu'ils se croisent pour qu'il y ait un pôle d'échange. Et donc, c'est l'organisation de ces pôles d'échange. Et c'est, je crois, sur la troisième ligne entre la Canebière et la rue de Rome, qui va aller après au Catalan, mais qui n'est pas encore faite, qui sera programmée qui a été passée en enquête d'utilité publique et qui est validée en tant que telle. Et à partir de ce tronçon, où là, ils sont l'un sur l'autre, très clairement, eh bien, on a dit que les deux lignes se doublaient, mais c'est une erreur majeure et j'invite, mais très calmement. Donc, j'ai fait une erreur parce que j'ai laissé courir cette rumeur, parce que je croyais que ça sautait aux yeux. Alors donc, je rappelle et je demande à ce qu'on regarde le plan.
D'accord. Autre gros dossier, vous présidez au Romet de l'établissement public. D'ailleurs, c'est quelque chose qui reste 10 ans après son lancement, un machin, on va dire, un peu technocratique, qui n'est pas toujours perçu, bien compris. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une usine à créer des bureaux. On a l'impression que ça ne bénéficie pas forcément pour les gens qui habitent le quartier Joliette.
D'abord, je vais vous dire, on est où ici ? On est au Friche la Belle de Mai. Quand on est arrivé en 1995, il n'y avait pas Euro-Méditerranée. Il y avait quoi ici ? Il y avait toute une équipe de gens tout à fait géniaux qui fabriquaient une culture dans un endroit dans lequel ils étaient plus ou moins bien intégrés, plutôt bien intégrés, mais le système législatif ou réglementaire était à la limite de la régularité. Dites-moi, toutes ces friches de la Belle de Mai, là, ça c'est Euromède. Hein. Si vous regardez Euromède, vous voyez tout ce que c'est devenu, la façon dont ces trois pôles sont devenus le pôle multimédia, le pôle culturel et le pôle de restauration du patrimoine, c'est quelque chose où on a apporté incontestablement un changement. Ici, à la Belle de Mai, on peut se dire, est-ce que ça a profité au quartier ? Avant, c'est une ancienne usine qui a été fermée du jour au lendemain et pendant plusieurs décennies, rien ne s'y est passé. Aujourd'hui, il s'y passe beaucoup de choses, on y attire beaucoup de monde. Et est-ce qu'il y a une porosité avec le quartier ? Pas tout à fait, il faut être bien clair. Mais pour au moins, ça marche mieux. Vous regardez un peu plus bas, vous descendez. Vous regardez la gare Saint-Charles, c'est quoi ça, la gare Saint-Charles ? On paye au Méditerranée plus de 25%. On a fait le tunnel pour passer sous la gare. On a fait le parking. La totalité de la gare est faite. Et on va restructurer l'ensemble de l'espace public sur le hall de la gare pour arriver à l'université où là, on va dégager toutes ces putains de bagnoles dans cette espèce de maquis dans lequel c'était insupportable. Vous descendez un peu, direction Porte d'Aix. Vous tombez là, à ce moment-là, sur l'îlot Bernard-Dubois. Excusez-moi du peu, l'îlot Bernard-Dubois. Il y avait des pauvres gens qui habitaient là-dedans. S'ils n'étaient pas victimes des marchands de sommeil, ils étaient susceptibles d'être victimes d'un effondrement de l'immeuble. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, ils ont tous été relogés dans le quartier. Et là, il y a un vrai projet de développement. Et après, quand vous descendez sur le bas, attendez, excusez-moi, il n'y avait que des friches. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, vous avez plus de 700 entreprises qui sont installées. Vous avez beaucoup d'argent investi et on a une requalification urbaine où sur la rue de la République, par exemple, moitié vide. Aujourd'hui, on a fait 1200 logements neufs, dont 600 sociaux. Donc, on est beaucoup plus que ce que nous impose la loi, les 20%.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Justement, continuons un petit peu sur Euroméditerranée. Vous avez évoqué les différentes phases d'Euroméditerranée. Pourtant, l'impression, on a toujours des problématiques de visibilité par rapport à ce programme, cet immense programme. On a l'impression que c'est juste un programme immobilier. Comment vous expliquez que les Marseillais, en définitive, n'adhèrent guère à un projet qui a été initié, je le rappelle quand même, pour rendre à César ce qui appartient à César, par M. Vigouroux?
Mais je lui rends hommage, je le dis bien, c'est M. Vigouroux avec M. Balladur qui ont initié l'établissement public. Et c'est M. Chirac avec M. Ponce qui ont donné à Marseille, au maire Jean-Claude Gaudin et au premier adjoint Renaud Muselier, l'établissement public a été créé en septembre après l'élection qui a suivi la nôtre. Donc vous voyez, on peut être de droite ou de gauche. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'était M. Vigouroux, d'ailleurs. On peut être de droite ou de gauche, mais on peut avoir une vision commune de développement de notre cité. Et donc, quand on a une vision commune de développement de notre cité, quel que soit le camp politique, bon, on finit par s'entendre. Et d'ailleurs, à l'intérieur du conseil d'administration de Euroméditerranée, 50% État, 25% ville, 5% communauté urbaine, 10% région, 10% département, l'ensemble des décisions sont votées à l'unanimité des participants.
Vous avez réévalué, d'ailleurs, vos rapports qui étaient plutôt tendus avec le conseil général et la région
avec le
Parce que vous aviez plutôt tendance à avancer un projet et après demander l'argent.
Oui, je fais toujours comme ça.
Oui.
Non, mais je fais toujours comme ça.
Il y a quand même des choses.
Non, je fais toujours comme ça pour une raison très simple. C'est que si vous attendez, alors je connais bien mon pays maintenant, et je connais bien la gestion des difficultés dans ce pays. Quand vous avez un projet, vous n'avez pas l'argent. Et quand vous n'avez pas l'argent, vous n'arrivez pas à financer votre projet. Alors j'ai compris comment ça marchait. C'est, on fait valider un projet, on le valide en collectif, et non pas en individuel tout seul dans son bureau en disant j'ai une idée géniale. Et après, on se présente en disant tous ensemble voilà ce que je veux faire, voilà comment je veux faire. Mais c'est comme ça que j'ai fait avec Euroméditerranée. Et c'est pour ça que ça a marché.
Il y a quand même des choses douloureuses.
Si vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas de souffle, vous n'avez pas de flamme, vous n'avez pas de caractère, et bien en face de vous, vous ne trouvez jamais l'argent. Par contre, si vous avez une ambition, une énergie, une idée, et bien vous pouvez faire basculer, vaciller et créer l'enthousiasme. Donc moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là.
On parle de remède, on parle de rue de la République, on parle du logement. Il y a des choses douloureuses qui se déroulent. Il y a quand même une inquiétude à savoir sur la place qu'auront les populations qui habitent actuellement ces quartiers, qui sont très souvent quand même des populations défavorisées, souvent aussi d'origine étrangère. Est-ce qu'on assiste là à une opération finalement de toilettage social du centre-ville de Marseille?
Non, pas question. Sauf qu'il y a quand même un toilettage incontestable de taudis dans le centre-ville, dans des immeubles haussmanniens. Parce que la réalité de Euroméditerranée, quand vous prenez la totalité des logements, c'est que vous avez la moitié des immeubles vides. Et dans l'autre moitié des immeubles, vous en avez des gens qui habitent dans ces immeubles, qui payent leur loyer, qui sont là, et qui sont tout à fait dans une situation normale. Puis l'autre moitié, qui vivent dans des appartements où il y a du saturnisme, où il y a des dangers majeurs, où vous avez un état de délabrement qui est à la limite du taudis. C'est inacceptable. Moi, je ne peux pas l'accepter dans le centre-ville. Alors, ce que l'on a fait, c'est très difficile, et je reconnais bien que ça crée des difficultés. On a fait en sorte de reloger ceux qui le souhaitaient dans le même quartier. Alors oui, celui qui habite au 11, il avait habité au 23. Il se déplace. Mais néanmoins, pour autant, l'immeuble, il est refait, il est recalibré. Et dans les 1200, je vous le dis bien, parce que c'est très important à rappeler, sur les 1200 logements qui ont été faits au Méditerranée, 600 sont sociaux. Donc, on requalifie et on reloge sur place, mais pas au même numéro dans la même rue. Voilà.
D'accord. Avec des polémiques quand même sur la qualité des logements. Sur, on a l'impression que parfois dans la ville, il faut qu'il y ait quand même que... Enfin, je reste un petit peu sur cette présence du privé, mais qu'il faut qu'il y ait quand même des mouvements citoyens pour que les choses soient un peu recadrées, pour que les gens puissent rester dans leur quartier, pour qu'ils n'aient pas des augmentations de loyers trop conséquents.
Non, mais moi, ça me va très bien.
Mais c'est pas un petit peu le rôle des politiques aussi, Monsieur Muselier, de réguler ça?
Est-ce que le rôle des politiques, c'est de regarder la rue de la République crever, s'assécher, s'appauvrir, disparaître, immeuble haussmannien, centre-ville, où petit à petit, vous avez de moins en moins d'habitants, et vous avez les deux gros groupes propriétaires de la rue de la République qui ont déjà géré dans la World Company leur niveau financier et qui n'investissent pas un franc dedans? Les politiques que nous sommes, et c'est moi qui suis en charge de ce dossier, c'était de les choper les uns après les autres et de leur dire maintenant vous allez bouger. Parce que moi, je vais la bouger, cette rue. Je vais vous faire des parkings, je vais vous faire un tramway et je vais la requalifier. Mais si vous ne bougez pas et vous la laissez pourrir comme ça, parce que vous êtes en train de la laisser pourrir sur place, eh bien, on va avoir de vrais problèmes ensemble. Alors, ils sont rentrés dans une mécanique où ils ont investi. Alors, certains ont vendu, ils ont sous-vendu, revendu. Très honnêtement, ça nous échappe un peu. Mais par contre, ils ont tous bougé. Et on leur a imposé, et je leur ai imposé dans le conseil d'administration, validé par le préfet de région, validé par le maire de Marseille, validé par le président du conseil général, validé par le président du conseil régional, la règle des trois tiers. C'est-à-dire que sur la totalité de la République, il y a de l'accession à la propriété, il y a du niveau intermédiaire, il y a du social et du très social.
Ouais, c'est la règle des trois tiers. Le social, souvent un maquis, ce social-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a des appartements de la SNCF, c'est pas un véritable social, etc., etc. Le vrai social est quand même minoritaire, extrêmement minoritaire.
Non. Moi, je peux vous donner tous les chiffres par rapport aux habitants, la façon dont ça se passe, et sur les prix des loyers après rénovation. Il n'est pas question, et ça, on a bien travaillé là-dessus, de faire ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voulez les sortir du centre-ville
C'est de la vente à la découpe, ça reste.
C'est pas la vente à la découpe. C'est de la rénovation urbaine sur la totalité de la rue, avec par endroit il y a du social, par endroit il y a de
Pour Marseille République, un des deux investisseurs, celui qui a le parc le plus important, il affirme quand même que c'est de la vente, que lui il est là pour un investissement, pour avoir son retour le bien, et il met une certaine pression quand même.
Il met une pression, mais il respecte ses quotas. Et on tient ce qu'il respecte ses quotas. Et on ne le lâchera pas là-dessus, ça je peux vous le garantir. Alors là où vous avez raison, c'est qu'ils sont parfois très maladroits, ils disent parfois des conneries, et les gens qui sont dans cette rue, ils sont inquiets, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe autour de beaucoup de choses? Et d'un coup, ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver? Dans quelle situation je vais me retrouver? Et ils sont très inquiets. Et c'est là où l'écoute de la population, l'écoute des associations est indispensable. Et on y tient particulièrement compte. Voilà.
Enfin, l'écoute s'est faite sur l'affrontement. Si Jean-Noël Guérini n'était pas venu, s'il n'avait pas employé des mots malheureux comme déportation, si des comités...
Il a été attaqué là-dessus par ceux qui l'ont fait, et il a retiré son mot pour qu'on puisse retirer la plainte.
C'est quand même une gouvernance d'affrontement que vous avez, Renaud Muselier.
Oui, mais enfin, je pense que quand même dans cette affaire-là, quand il a parlé de déportation, il a parlé au président de l'entreprise dont le père était en déportation. Je peux vous dire qu'il n'a pas très bien vécu. Il l'a attaqué, M. Guérini. Et M. Guérini a fait ses excuses pour que le dirigeant retire sa plainte. Il y a des difficultés, parfois, des incompréhensions de temps en temps, et puis il y a des dérapages. En l'occurrence, un dérapage. Monsieur Guérini s'est excusé, donc ça fait régler.
On s'éloigne un petit peu de Marseille. On parle de la région. On parlait tout à l'heure de la défaite électorale qui a été la vôtre, celle du fils de PACA. Aujourd'hui, où en sont? Vous présidez le groupe UMP-UDF du conseil régional. On a un peu l'impression que la droite régionale est assommée, tétanisée. Et puis, qui est le leader des droites régionales? Alors, il y a une personnalité, par exemple, comme M. Estrosi, qu'on voit un petit peu partout. Comment ça se passe?
Ça se passe bien. Bon, écoutez, d'abord, alors, on peut jouer sur les mots, mais alors, ça va vous faire sourire. Parce que vous dites j'ai perdu. En fait, j'ai pas gagné. Donc, c'est important pour le moral aussi, ça. Vous savez, c'est le problème du verre d'eau à moitié plein ou verre d'eau à moitié vide. La réalité, c'est qu'il était en place, M. Vauzelle. Je suis parti à la conquête de la région et j'ai raté ma conquête.
De loin.
Oui, mais j'ai raté. De près ou de loin, c'est pareil. Hein. Moi, ce n'est pas le problème de savoir si j'ai raté de près ou de loin. Le problème, c'est que j'ai raté. Donc, vous me dites, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu. Mais je suis parti à la conquête dans un combat que d'autres ne voulaient peut-être pas mener ou n'avaient pas envie de mener. Moi, je suis mené un combat parce que je pense.
Vous voulez dire qu'on vous a tendu un piège, Renaud Muselier?
C'était
des bruits qui couraient à l'époque. Oui,
mais si on l'a tendu, je suis tombé volontiers dedans.
Qui vous l'a tendu? Jean-Claude Gaudin?
Non, c'est pas ça. Vous voulez toujours nous faire un affrontement. Moi, j'ai la volonté d'essayer de faire quelque chose. Voilà. Il y a un territoire qui n'appartient pas à ma sensibilité politique. J'estime que la majorité en place ne fait pas son travail ou ne le fait pas comme je souhaiterais le faire si j'étais à sa place, je mène le combat. Et je suis très heureux, très honoré d'avoir eu la possibilité de mener des listes d'union UMP-UDF sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai perdu. Alors après, il y a eu le soutien des personnalités. Vous savez, quand j'ai lancé ma campagne au niveau des régionales, j'avais le soutien de tous les maires de droite de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont nombreux. On a bien vu que le soutien de tous les maires n'a pas suffi pour me faire gagner, hein, ça c'est bien clair. Pour autant, vous avez des personnalités très différentes. Mariani dans le Vaucluse, il était sur mes listes, il est une personnalité importante de notre vie politique. Monsieur Falco, qui était sénateur-maire, qui était avec moi au gouvernement, qui est sénateur-maire de Toulon, il m'a soutenu dans cette campagne, et c'est une personnalité très importante dans le département du Var, parce que c'est celui qui...
L'impression que vous avez dépensé énormément d'énergie à avoir justement l'approbation des maires, et vous avez négligé le fondamental, en l'occurrence l'électorat. puisqu'on a vu les tribulations que vous aviez avec Rudy Salles, certains vous soutenaient à reculons, etc., etc.
Non, personne ne m'a soutenu à reculons. J'ai eu plus de difficultés à faire la liste avec l'UDF, ça c'est vrai. Ça c'est la plus grosse difficulté. Je n'ai aucune difficulté avec les responsables politiques locaux, que ce soit à Nice ou avec Nice, c'est Perra, ou avec comment il s'appelle, Christian
Perra, ancien Front National.
Enfin c'est le maire de Nice, donc il est maintenant à l'UMP au niveau.
Il passait à la machine à laver l'UMP, on peut dire ça comme ça.
Je ne sais pas s'il passait à la machine à laver l'UMP. C'est le département des Alpes-Maritimes. Il siège au Sénat. Moi, je siège à Marseille. Hein, donc écoutez, la réalité, c'est quand même le sénateur maire de Nice et le président du Conseil général, patron de l'UMP, qui est Christian Estrosi, avec Madame Tabarot, députée maire du Canet, m'ont soutenu sans état d'âme. Et le système a fonctionné. La réalité après, c'est qu'une fois que vous n'avez pas gagné ou que vous avez perdu, suivant comment vous présentez votre verre d'eau, la réalité c'est que vous n'avez pas perdu, soit l'autre il est plus fort, ce qui est possible, mais ce que je ne reconnais pas volontiers, soit vous-même vous n'avez pas fait une bonne campagne. Alors après, est-ce que vous êtes trop appuyé sur les élus? Est-ce que vous n'avez pas eu les bons slogans? Est-ce que vous n'êtes pas assez mouillé la chemise? Ou est-ce que vous avez été pris dans la mécanique nationale? Parce qu'il y a eu quand même la déferlante nationale en plein milieu et qui n'a pas facilité la tâche. Je me permets quand même de vous rappeler qu'on a perdu toutes les régions de France.
Pour aller beaucoup plus vite, parce qu'on n'a vraiment pas de temps à nos muselier.
Je repose la question. Un Christian Estrosi, ministre proche de Nicolas Sarkozy, est-ce que de la même génération que vous, est-ce qu'il vous fait pas de l'ombre ?
Non, je suis content que ce soit dans l'Alpes Maritimes, c'est tout. Non, mais Christian, on a la même génération, on a le même âge. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde dans la vie politique. Je veux dire, il faut qu'on travaille ensemble. Et lui, il est très proche de Nicolas Sarkozy. Moi, j'étais très proche de Chirac. Enfin, je suis très proche de Chirac parce que j'ai encore une fonction de
petit lapsus. Lapsus révélateur.
Ah, mais parce que je pense quand même que il y a une ère qui se tourne, il y a une page qui se tourne, voilà, quelle que soit notre génération. Moi, j'ai 47 ans, j'ai toujours été dans la génération de Chirac, de Giscard ou de Mitterrand. Bon, ça va, il y a un moment où ça suffit, quoi, voilà.
Vous dites ça quand même, on est aujourd'hui, c'est la commémoration de la mort du général de Gaulle. Vous enterrez le gaullisme une deuxième fois ?
Non, ben, il est mort, paix à son âme, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi, voilà, j'enterre pas le gaullisme, mais après tout le monde parle au nom de Gaulle sans jamais avoir vécu la guerre, ils me font rire. Ils sont tous plus gaullistes les uns que les autres, mais qui sait comment réagirait le général en fonction des différentes situations. Moi, ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé auprès de Chirac dans une situation bien particulière pour représenter la France dans un moment critique, majeur, fondamental, où j'avais des responsabilités très importantes au sein du gouvernement, en tout cas là où c'est important. C'est à l'ONU, quand au niveau de la France, on a dit non aux Américains et non à la guerre en Irak. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Et je sais ce qu'a fait Chirac dans cette opération-là, dans un moment particulièrement difficile. Alors ceux qui peuvent parler au nom du gaullisme, d'un homme que je respecte, qui est un type extraordinaire, sûrement, mais je ne l'ai pas connu, ou si peu, que bon, écoutez, moi je connais ceux qui sont là aujourd'hui. Et je sais que Chirac, dans cette affaire-là, j'étais à ses côtés. Je sais que la France, elle peut être digne de son président.
Alors justement, vous soutenez aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez quand vous le voyez auprès de George Bush, prenant un peu un certain écart avec la politique étrangère de Jacques Chirac et,
D'abord, vous, petit-fils de l'amiral Muselier. Ouais, ouais.
Mais d'abord, juste pour le soutien à Nicolas Sarkozy. Moi, je veux que dans ma famille politique, on gagne. Et dans ma famille politique, je sais qu'il n'en faut qu'un au nom de l'UMP. S'il y en a plusieurs, la division nous amène à l'échec. Or, aujourd'hui, dans notre famille politique, le seul qui est le mieux placé pour y arriver et pour gagner, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, à partir du moment où il n'en faut qu'un, s'il y en a d'autres qui veulent se présenter, ben, qu'ils se présentent, comme ils font les socialistes aujourd'hui, il y a un débat. Le débat, il est républicain, il est plus ou moins bien organisé, mais il en sort quelque chose. Et moi, ça me plaît, ça. Parce qu'il y a un échange et il va sortir un vainqueur. Je pense que, bon, enfin, on verra bien qui sera le vainqueur. Je ne suis pas là pour parler des autres. Et chez nous, eh ben, si Nicolas Sarkozy est le seul à être candidat, je suis très heureux pour lui qu'il gagne.
Quitte à assumer une rupture avec certaines valeurs du gaullisme.
Je regrette que ceux qui sont susceptibles de dire « moi, je suis gaulliste, moi, je suis libéral, moi, je suis centriste, moi, je suis divers droite », vas-y, mon pote, à l'intérieur. Va discuter comme ils font chez les socialistes. Ah, sinon, tu critiques pas. J'en veux qu'un. Aujourd'hui, c'est lui. Ben, écoutez, je n'en veux qu'un. Et bon, ben, on décidera ça début janvier. Alors, ce qui concerne sa visite aux États-Unis, qui voit Bush ne me choque pas. Très honnêtement, ça ne me choque pas. C'est le président d'une des plus grandes démocraties du monde, d'une des plus grandes nations du monde. Il est reçu par le président Bush. Il y a beaucoup de candidats en France ou d'hommes politiques qui aimeraient être reçus par le président Bush. Qu'après, il porte un jugement sur la position de la France par rapport à l'Irak, ça, je porte un jugement très différent là-dessus.
Vous lui avez dit ?
Bien sûr que je me suis gêné.
Parce que moi, on peut encore discuter avec Nicolas Sarkozy, faire des remontrances.
Bah écoutez, moi, je suis un ami, mais je ne suis pas dans le premier carré. De toute façon, ma liberté de parole, ma liberté de penser, la liberté de m'exprimer. Moi, ils ne m'ont jamais rien fait pour moi, les Parisiens. Je me suis toujours débrouillé tout seul, avec mes qualités, mes défauts, avec mon bon sourire ou mon jeune âge, peu importe. Mais en tout cas, ma très grande détermination et plutôt mon courage, parce que ça, tout le monde me le reconnaît. Donc, eh bien, écoutez, moi, je suis libre. Qu'est-ce que les kiffas ? Ils vont se présenter contre moi à Marseille ? Ils vont me faire perdre ou gagner à Marseille ? C'est pas eux qui sont candidats ici. Voilà.
Alors justement, vous allez essayer de redevenir député, on l'évoquait au début de l'émission, mais pas dans la circonscription, a priori, qu'on pensait pouvoir conquérir.
Non, moi je suis issu de la 5e circonscription. Les
Vous avez fait un rodéo, 5e et 10e arrondissement.
Il y a quelques temps. Moi j'ai dit que je suis premier adjoint au maire de Marseille, j'ai été réélu 3 fois dans cette circonscription, la dernière fois en faisant 73% des voix, le meilleur score de France, excusez-moi, au deuxième tour. Et on se retrouve dans une situation où dans nos discussions internes avec Jean-Claude, on dit, bah, écoutez, moi finalement je suis premier adjoint de la deuxième ville de France, dans cette ville j'ai une capacité territoriale, et donc pourquoi j'irai forcément dans ma circonscription où vous voulez, vous me laissez, mon cher Jean-Claude. Et donc on a commencé à discuter un peu, et comme on a trouvé les solutions dans cette discussion sympathique, eh bien, je vais tranquillement dans ma circonscription avec mon député maire Bruno Gilles, qui est un type exceptionnel et qui fait un travail sur le terrain remarquable. Et comme ça, on a la paix et l'harmonie sur la ville de Marseille. On a cette capacité de continuer ce qu'on a déjà engagé.
En gros, il a sifflé la fin de la récréation. Vous vouliez aller dans la circonscription de Dominique Tian, il a dit non. Vous en vouliez une autre, il a dit non. Finalement, vous vous retrouvez dans votre circo d'origine.
Ça veut dire que...
Ça veut dire qu'il a eu le dernier mot.
Est-ce que c'est là le dernier mot?
Qu'est-ce que vous allez nous annoncer?
Ou est-ce que c'est juste une vision à court terme? La seule chose qui compte pour moi, ce n'est pas le national, c'est Marseille, c'est la communauté urbaine.
Est-ce qu'on a une existence quand on a été secrétaire d'État, quand on a voyagé, quand vous avez voyagé, de rester simple deuxième adjoint du CGS de la deuxième ville de France?
Écoutez, de toute façon, tant je ne suis plus rien demain, mais je suis en bonne santé. Voilà. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et j'ai la conviction, j'ai la foi, j'aime me battre. J'ai vécu un moment phénoménal, extraordinaire, fantastique, qui m'a appris beaucoup de choses sur le plan international, sur la méthodologie de fonctionnement de l'État. Je la mets à disposition de mes concitoyens. Écoutez, maintenant, vive la démocratie. Hein.
Un mot sur une thématique qui est en train de monter à nouveau dans la campagne des présidentielles et des législatives, à savoir la sécurité. Et pour faire un lien aussi avec ce fait divers tragique, celui de l'autobus à Marseille et de sa victime, c'était pas une erreur de supprimer la police de proximité?
Vous savez, la police de proximité qui est mise en place par Jospin, c'est plus 14% de délinquance. Je crois qu'il y a un problème sur la terminologie de la police de proximité. La police aujourd'hui, c'est moins 8% par rapport au plus 14% de l'époque. La réalité, c'est que la police, elle est là pour faire respecter la loi. Et la police de proximité, c'est pas sympathiser avec les gens pour qu'ils ne vous respectent pas. Et, or, dans proximité, moi, j'entends quand même, c'est plutôt l'îlotage. L'îlotage pour faire respecter la loi. C'est pas je sympathise avec les jeunes des quartiers qui, dès que j'ai le dos tourné, vont tout péter. Ce qui s'est passé en son temps. Et je crois qu'il y a un vrai problème sur la terminologie. Si la police de proximité, c'est plus 14% d'augmentation de la délinquance, c'est pas bon, il faut l'enlever, ça a été fait. Et aujourd'hui, la police, elle-même, sans le titre de proximité, c'est plus 8. Mais je crois fondamentalement que, ici à Marseille, on est très attentif à ça quand même, c'est que le maillage, la connaissance, la culture du quartier est indispensable pour la vie sociale. Indispensable pour la vie sociale. Mais la police, elle a un rôle de police, chacun son boulot.
C'est le problème de la relation avec les gens. C'était aussi, on n'envoie pas des... Enfin, maintenant, on a tendance à envoyer des CRS plutôt que de la police, qu'elle soit de proximité ou pas, mais en tout cas d'une police nationale. Il n'y a pas aussi un problème de...
Vous savez,
de poids de mesure sur...
Je crois... moi, je vois ce qui s'est passé. Je ne parle pas ici à Marseille, parce que nous, je touche du bois. Hein, on est à la merci de beaucoup de difficultés. Mais quand on voit ce qui s'est passé l'an passé, très honnêtement, on était dans une situation où on ne peut pas accepter non plus que les gens qui vivent dans ces quartiers ne soient pas dans un système républicain. Et là, je vois bien les discussions qui avaient lieu au gouvernement à l'époque. Les choses peuvent se calmer si on tire les policiers. Mais si on tire les policiers, à la limite, la République fait marche arrière. Et la République, elle doit être liberté, égalité, fraternité, partout, sur tout le territoire.
Là, vous parlez de liberté, égalité, fraternité. On vous a connu, par exemple, au moment des régionales, dans un discours assez séduisant vis-à-vis de l'électorat du Front National. Et sur ces thématiques sécuritaires, est-ce que là, il n'y a pas un risque de dérapage à nouveau?
Je ne sais pas ce dont vous vous souvenez d'un régional, mais vous savez, je me permets de dire quand même...
On appelle du pied entre les deux tours,
non,
il me semble.
Non, ils sont en place. Ils sont en place, ils sont là. Il y a les socialistes, il y a le Front et moi. J'appelle les socialistes et le Front voter pour moi. Ils y sont. Donc, ils ne seraient pas là encore. On peut peut-être me suspecter. Mais je tiendrai à rappeler quand même que depuis qu'on a l'alliance avec Jean-Claude, jamais il n'y a rien eu avec le Front National. Et je suis le premier à avoir battu le conseiller général en centre-ville Front National, M. Roussel. Et jamais vous trouverez dans mes propos une coalition potentielle ou un appel du pied à le Front National. Et j'ai même appelé à voter à l'époque pour un candidat communiste à Gardanne contre le Front National. Vous savez, de ce côté-là, je suis super tranquille.
On arrive presque au terme de cette émission. Renaud Muselier, sans langue de bois, comme on l'a débuté cette émission. Aujourd'hui, vous avez une carrure suffisante pour Marseille? Vous êtes jeune, quels sont les atouts que vous avez contre Jean-Claude Gaudin, ou la différence de Jean-Claude Gaudin?
Quand vous dites carrière suffisante, est-ce que c'est un constat ou
non, je vous pose la question.
Est-ce que j'ai une carrière suffisante? J'en sais rien si j'ai une carrière suffisante. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai une carrière suffisante. Je sais en tout cas que 12 ans de mairie, 12 ans de parlement, 3 ans de gouvernement, fait en sorte que sur le ballage, le bagage politique en termes de CV, en termes de vision des choses, en termes d'expérience, bon, ben, ce n'est pas indifférent. Et je mets cette volonté à disposition. Voilà.
Rapidement, vous en avez marre de Jean-Claude Gaudin?
Non.
Allez.
Non, très honnêtement, non. Parce que de toute façon, il ne peut pas gagner sans moi, je ne peux pas gagner sans lui. Et je m'entends très bien avec lui.
C'est quand même un duo, c'est pas un duo de cœur, c'est un duo de raison.
Non, parce que les duos de raison ne tiennent pas à la distance, alors que nous, ça fait 15 ans qu'on fait mairie commune.
C'est un duo de cœur, alors.
C'est un mélange de filiation, de très grandes différences. Il est plus rond que moi, il est ancien prof, moi je suis plus maigre, je suis médecin, il est un peu plus vieux, je suis un peu plus jeune, voilà. On a un complément harmonieux. Voilà.
Il est assez symptomatique quand même que vous n'ayez pas fait de grandes déclarations sur la Chambre régionale des comptes, sachant que Jean-Claude Gaudin a dit que c'est lui-même qui répondrait lundi en conseil municipal. Vous avez des instructions comme ça dans le bureau, dans ce fameux bureau où il se passe tellement de choses, paraît-il?
Oui, ben c'est le bureau du maire, donc c'est normal qu'il se passe tellement de choses. Il y a des mises au point qui ont toujours. Mais ce que je vous dis, c'est un très honnêtement, la gauche va essayer de faire en sorte que, mais c'est un non-événement, voilà. Et quand on voit le rapport et quand on le compare aux autres institutions qui ont été rapportées.
Il y a quand même eu MPM l'année dernière. Il y a eu l'ADSP du Frioul aussi. Il y en a un certain nombre.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on a tous les contrôles. Hein. On ne nous épargne pas. Hein.
Roland Muselier, on vous remercie. On arrive au terme de cette émission. Encore une fois, comme tous les deuxièmes samedis du mois, on est à l'honneur sur Radio Grenouille. On parle de politique. Vous allez retrouver l'intégralité de cette interview, en tout cas les meilleurs morceaux dans leur avis, le mensuel satirique dans tous les kiosques. On se retrouve le 9 décembre. Avec Jean-Marc Coppola, il sera question là aussi de politique, cette fois-ci vue du côté communiste.